bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast, on va parler un petit peu de des tacos en France. On va parler également d'un plan obésité, anti-obésité au Royaume-Uni, enfin chez les Britanniques quoi. Et on va répondre aux questions des auditeurs, les questions des auditeurs qui portent sur le taux de gras, donc en le stockage du gras sur le bas du dos, mais également sur les fesses et aussi d'un point faible sur le haut des pectoraux avec une méthode d'entraînement que propose un auditeur. Et on va voir si c'est viable ou si on ferait mieux de s'en passer. Voilà. Donc, bon, ben, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous pouvez profiter un petit peu de l'été déconfiné, d'un été, je sais pas moi, peut-être que vous partez juste à côté de chez vous, ou alors vous traversez la France, j'en sais rien. En tout cas, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont envie de faire du plein air, camping, en fait, ils ont envie de se ressourcer à la nature et tout, et je pense que c'est un petit peu les instincts primaires qui reviennent un petit peu au galop, après une période où on a été enfermé. Bon, maintenant, ça commence à dater, mais où on a été enfermé, bah, les gens, ils aiment bien, ils ressentent ce besoin d'aller à l'extérieur, et j'en fais partie, donc voilà. Je trouve que c'est plutôt positif, voilà. Et même pour le sport d'ailleurs, hein, apparemment, il y a pas mal de services qui se sont mis en place pour faire du sport à l'extérieur, parce que bon, voilà, vous savez, en salle, le port du masque sous certaines conditions et tout, ça peut déranger des personnes. Bah après, ça peut se comprendre, hein, s'entraîner avec un masque. Alors, enfin, c'est pas vraiment s'entraîner avec un masque. Je crois qu'on doit s'entraîner normalement, mais c'est dans les parties, je vais pas dire communes, parce que toutes les parties sont communes en salle, mais on va dire les vestiaires, l'arrivée à la salle, les sanitaires et tout, il faudrait porter le masque. Bon, bah écoutez, je sais pas, moi vous savez, je m'entraîne à la maison depuis plus d'un an maintenant, et je trouve ça génial. Voilà, donc pour démarrer ce podcast, je voulais juste vous préciser que ce dimanche à 9h est sorti une formation sur les TCA. Donc c'est quoi les TCA? Les troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, hyperphagie et même depuis peu orthorexie, je crois. Donc ce qui a fait un peu polémique, j'en avais déjà parlé, un terme que je trouve bizarre, mais bon, qui est visiblement pathologique. Enfin, en tout cas, c'est une pathologie reconnue aujourd'hui. Donc, enfin reconnu, ça demande à être vérifié, mais en tout cas, on en parle beaucoup. Donc, j'ai fait un sujet là-dessus, non pas pour vous dire, pour vous faire la morale ou pour vous expliquer que tout se passe dans la tête, même s'il y a une partie psychologique, évidemment, mais j'avais envie de vous partager des outils pour les personnes qui souffrent de ce genre de troubles. J'ai publié, je crois qu'il y a... de mémoire, je sais plus combien de concepts nouveaux, mais en tout cas, je parle de style de vie du quotidien pour ces personnes-là, de manière à leur faire une solution plus ou moins clé en main. Par exemple, un truc tout bête, mais la liste de courses pour une semaine, ingrédients, le poids des aliments à acheter, tout ça, un truc concret, quoi, pour que ces personnes-là aient chez elles les aliments qu'il faut pour se remettre en forme, se remettre sur les rails, mais également des petites astuces du quotidien. On va parler de lumière, on va parler d'assiette, on va parler de tout un tas de choses comme ça. Donc, je vous en dis pas plus. Vous avez le lien dans la description pour ceux et celles qui sont intéressés. Le lien de mémoire, qu'est-ce que j'ai mis pour que vous puissiez voir rapidement. J'ai mis TCA, deux points, les nouveaux outils pour en sortir, voir la vidéo, et vous avez le petit lien pour cliquer. Vous pouvez pas le rater dans les notes de l'émission. Il y a une petite couronne à côté du lien. Bon, on démarre un petit peu. Alors, premier point, actualité, donc les tacos en France. Alors, qu'est-ce que j'ai noté par rapport à ça? Alors, c'est une sur l'Alsace.fr. un article, une news que j'ai vu qui s'appelle Boom de la nourriture mexicaine, le taco est-il vraiment calorique? En fait, en France, ils disent cela est certainement lié au fait que les premiers restaurants à avoir fait des tacos, en France proposaient la version Tex-Mex, c'est-à-dire 100% américaine. Ils sont avant tout des sandwichs souvent très copieux dans lesquels on privilégie avant tout la quantité de produits et un prix bas afin d'attirer un maximum de clientèle. Ces premières enseignes de tacos en France proposaient de garnir le taco avec tout et n'importe quoi, des nuggets, de la viande de kebab, du fromage frais persillé, de la raclette. Alors je pense que tout le monde a vu ça. Hein. Tout le monde a vu pour moi c'est du fast food ça en fait. C'est du fast food dans le sens où on a détourné quelque chose d'original, original, on peut dire ça, c'est quelque chose qui était original dans un certain pays à quelque chose qui est un petit peu pour copier, pour aller avec le goût des gens. Et pour moi, j'aimerais bien faire le parallèle avec les pizzas. Vous savez, une pizza que vous achetez en France, une pizza dans une pizzeria classique, vous savez, la pizza que les Français consomment, ça n'est pas du tout la pizza originale. C'est-à-dire que la pizza... Alors d'ailleurs, la pizza de mémoire, il faudrait que je regarde origine de la pizza, mais beaucoup pensent que c'est l'Italie, mais je crois que c'est les États-Unis. Je vais taper ça en même temps, comme ça je vous donne la news. Origine de la pizza. Vous voyez, ça, vous l'avez que dans des émissions artisanales comme la mienne, mais vous saurez pas ça quand vous écoutez la radio avec une équipe technique derrière. Alors, où est née la pizza? On va taper... Eh oui, non, c'est l'Italie. Mais pourquoi j'avais entendu que c'était aux États-Unis les premières pizzas? Ah non, je crois que c'est les burgers. C'était l'histoire des burgers. Donc non, la pizza est une recette de cuisine traditionnelle de la cuisine italienne. Mais non, ils mettent pas histoire jusqu'à l'introduction de la tomate, blablabla. Alors je suis sur Wikipédia, hein, donc après la source est pas forcément la meilleure. Mais bon, bref. Apparemment, ce serait Naples. En Italie. Donc ça serait pour le burger. Je crois que le burger n'est pas d'origine américaine. Bref, en fait, pour faire le parallèle avec ça, les pizzas que nous, on consomme n'ont rien à voir ou quasiment rien à voir avec les vraies pizzas italiennes. Et donc du coup, par rapport aux tacos, ce sont des aliments qui se sont un petit peu, je vais pas dire modernisés, mais adaptés au goût des Français. Et aux États-Unis notamment, c'est pareil. Parce que il faut savoir une chose, c'est que ça a une forte popularité aux États-Unis, notamment avec la franchise Taco Bell. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec l'origine. Donc on va voir un petit peu l'origine. Donc la personne en parlait. Donc manger un taco. Alors là, début de citation. Hein, manger un taco, une expérience avant tout dans cette taquiera installée dans le quartier de Pigalle à Paris. Limbert, 30 ans, vient de s'attabler. Plusieurs fois par mois, ce Mexicain installé en France depuis 6 ans aime retrouver la saveur authentique des tacos, repas phare de son pays d'origine. Ce qui manque, c'est l'ambiance. Les Français aiment s'asseoir pour manger un repas. Au Mexique, le taco se mange dans la rue, mais ça ne veut pas dire que c'est de la malbouffe. C'est le repas du peuple, un moment de convivialité. Là-bas, le taco coûte le prix d'une baguette de pain en France, raconte le jeune homme. Le taco est très nutritif. Son préféré, au poulet grillé ou au bœuf, sans fromage, mais avec coriandre et salade. Le taco n'est pas juste un plat, c'est une façon de manger. Pour un Mexicain, tout ce qui se mange finit dans une tortilla. Consommé à toute heure et présent dans une infinité de recettes, le taco est un pilier de la cuisine mexicaine et surtout une merveille de création, complète Roxana, responsable d'exploitation à ACA Pigalle. Bon, et je regardais un petit peu et c'est vrai que quand on regarde les recettes originales, ce sont plutôt, ils mettent un peu des fois du poisson, des fois des légumes et tout, et il n'y a pas forcément du fromage, il n'y a pas forcément des aliments frits, etc. Et nous, en fait, on a détourné ça, on l'a transformé un petit peu en fast-food. Donc, est-ce que oui ou non, c'est calorique, ce fameux taco? Eh ben, moi, j'aimerais vous donner deux versions. Moi, je pense que la version originale, qui est riche, par exemple, il y a du coriandre, on peut mettre de la viande maigre, des tomates, des oignons. La tortilla, forcément, c'est à base de maïs, la recette originale, donc c'est pas forcément quelque chose de super sain. Mais il y a quand même une grosse différence entre une garniture faite de légumes frais, d'herbes, d'aromatiques, d'épices, avec une viande maigre, sans fromage, et la version Tex-Mex, un petit peu made in US et maintenant made in France, où on va avoir, parce que moi ici, je sais qu'il y a des tacos aux trois viandes, avec du fromage, du cheddar et tout. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que j'ai mangé ce genre de choses, et je crois que j'en ai mangé que deux ou trois fois dans ma vie, je vous le dis honnêtement, j'ai eu la courante. Donc ça a pas été une réussite pour moi. C'est tellement gras, c'est tellement riche, que mes intestins, j'ai pas la bonne flore bactérienne, enfin la bonne flore intestinale, le bon microbiote pour adapter à ce genre de bouffe. Par contre, il m'arrive très régulièrement, donc ça peut être une ou deux fois par mois, de me faire une version plutôt saine, sous forme de, on va dire entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais de cheat meal, de rebond, de recharge du week-end. J'aime bien me le faire avec des tacos comme ça, mais Madine Fitness Miss quoi, en gros, hein, pas Madine Tex-Mex, pardon. Donc, est-ce que oui ou non, c'est calorique? Ben, toutes les versions que vous allez retrouver dans les fast-food français, oui. Malheureusement, c'est parce que c'est pour se plier à vos attentes. Enfin, à vos attentes, peut-être que vous vous en consommez pas, mais bon, vu le boom, ça veut dire ils sont bien quelque part, les gens qui en mangent. Donc, ces versions-là, forcément, ça va pas aller dans le sens du fitness. Et après, une version que vous pouvez vous faire vous-même, ça sera toujours mieux. Après, le choix de la galette, là, enfin, de la tortilla, ça reste encore à travailler pour trouver une recette un petit peu plus sympa pour coller en tout cas à nos exigences à nous qui faisons attention à ce que l'on mange. Mais bon, une petite recharge du week-end, pourquoi pas, ça peut faire plaisir. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais noté aussi comme actualité rapidement? Ah oui, il y a cette histoire de Boris Johnson. Alors, Boris Johnson, je crois que c'est le premier ministre en Angleterre. L'article, c'est Vanity Fair qui dit Covid-19, Boris Johnson veut faire maigrir les Britanniques. Alors, pour rappel, lui, il a chopé le Covid. Et après ça, il a décidé, parce que vous savez que l'obésité est un facteur de risque assez élevé par rapport au Covid-19. Et donc, du coup, il a décidé de perdre du poids et tout. Et bon, révélation, il a envie de faire maigrir maintenant les Britanniques. Alors, l'ancien maire de Londres s'est fixé pour objectif de réduire de moitié l'obésité infantile. Donc on va voir comment, mais l'une des mesures phares prévoit notamment, alors non, ça on le verra après, donc on va voir d'abord ça, l'ancien maire de Londres, donc comme j'ai dit, s'est fixé pour objectif de réduire de moitié l'obésité infantile d'ici 2030, actuellement un enfant sur trois est en situation de surpoids, bien que le gouvernement n'ait pour l'heure donné aucun détail concernant le financement de ces grandes mesures, le Guardian l'estime à 10 millions de livres sterling. Donc l'une des mesures phares prévoit notamment l'interdiction de publicité à la télévision ainsi que sur Internet pour de la junk food avant 21h. Donc c'est-à-dire que toute la journée, pas de pub pour les fast-food. Donc imaginez-nous en France, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télévision, bon, plus personne regarde la télé, mais bon, on va dire que sur les médias, on n'aura plus de publicité, enfin imaginez, hein, pas nous, hein, c'est les Britanniques, mais imaginez si c'était nous en France, on n'aurait plus de publicité pour tout ce qui est fast-food, nourriture, junk food quoi. Il n'y a pas que fast-food, hein, c'est la junk food, donc tout ce qui va être chips, soda, burger, plat rapide et tout. Enfin moi dans la junk food, je mets quasiment tout sauf ce que je mange en gros. Hein, je vais pas dire, je sais pas pour être extrémiste, mais bon pour moi la junk food c'est un petit peu toute la poubelle que veut nous servir l'industrie agroalimentaire. Transformé et tout ça. L'industrie agroalimentaire a aussi des plats sains, mais ce qui est souvent mis en avant, malheureusement, c'est pas cela, parce que c'est ceux qui sont les moins séduisants, les moins attrayants au niveau gustatif, etc. Donc, imaginez un monde où avant 21h, on ne verrait pas tout ça. En outre, les chaînes de restaurants à emporter de plus de 250 employés seront dans l'obligation d'afficher publiquement le nombre de calories dans leur menu. Alors ça, moi je vais... mais d'ailleurs, j'aimerais faire une vidéo Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aimerais faire une vidéo qui s'appellerait les X propositions de loi pour lutter contre l'obésité. Ce serait une vidéo que je ferais publique, gratuite, enfin je veux dire comme ça sur YouTube, hein, parce que j'ai plein d'idées pour essayer de lutter un petit peu contre cette obésité. Et ben voilà, si cette vidéo peut être mise en ligne et être partagée au maximum, pas forcément pour fasse des vues parce que je m'en tape, vous le savez, moi les vues ça me passe au-dessus, mon travail c'est sur mon site internet, c'est pas sur YouTube, mais au moins que le message puisse passer, et j'ai pas mal d'idées par rapport à ça, et enfin dites-moi si ça vous intéresse, je le fais, si vous trouvez que c'est bête et que ça me et que je suis pas légitime, je passe à autre chose. Donc en gros voilà, donc les 250 les trucs de plus de 250 employés seront dans l'obligation d'afficher publiquement le nombre de calories dans leur menu, et moi je pense que ça serait bien non pas d'afficher par aliment que vous consommez, mais globalement, c'est-à-dire que par exemple vous allez au McDo, je prends McDo parce que c'est une grosse enseigne, vous prenez le menu Maxi Best Of Big Mac machin avec ça, et ben maintenant vu que vous commandez sur des bornes et que c'est électronique, et ben l'algorithme au moment de payer vous dise vous venez de commander un menu plus des suppléments et ça vous fera un total de X euros et un total de X calories. Alors je sais que c'est pas vendeur, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça serait une bonne astuce. Les promotions sur les produits jugés de mauvaise qualité seront proscrites des supermarchés. Alors ça, c'est une autre mesure. Et j'attends de voir à quoi ça peut ressembler. C'est pour ça que je vais surveiller un petit peu les Britanniques pour ça. Parce que imaginez un monde où les promotions sur les produits jugés de mauvaise qualité. Donc déjà, il faudrait voir qu'est-ce qui est jugé de mauvaise qualité. Est-ce qu'ils ont des scores? Est-ce qu'ils ont des... Bon, voilà. Admettons qu'ils ont des scores. Donc les Nutri-Score, comme nous, on pourra avoir. Imaginez que tous les produits qui sont à partir de C, soit jugé de mauvaise qualité, et donc du coup vous savez le Nutri-Score ABCD machin là, la petite lettre qui est en surbrillance, donc à partir du moment où c'est noté en C, on pourrait dire mauvaise qualité, et donc du coup pas de promotion. C'est-à-dire que fini les têtes de gondole, fini le bonhomme avec le micro qui vous dit venez profiter d'un savane acheté, trois savanes offerts, tous ces trucs là terminés, interdits. Mais bon, il faut pas oublier que les gens, ils ont besoin d'être guidés. C'est-à-dire que moi, je fais un peu le mariole en vous parlant de nutrition et tout, mais c'est mon domaine, c'est ma passion, ça me fait vibrer, j'aime ça, j'aime partager et tout. Mais je peux pas demander à l'ensemble de la population d'avoir les mêmes critères de jugement, la même finesse d'analyse, etc. face aux aliments. Je peux pas leur demander. Ils ont leur expertise dans leur, chacun dans leur domaine. L'autre, il va être plombier. L'autre, il va être, je sais pas, moi, ingénieur. Et, voilà. Lui, chacun son domaine. Donc, il y a quand même ce besoin. Les gens ont entre guillemets un besoin d'être guidés sur la nutrition. Et je peux pas aussi demander à tout le monde de venir me voir ou d'aller voir un nutritionniste ou d'aller voir je sais pas qui pour apprendre à manger. Les gens ont besoin d'avoir ce micro-service, en tout cas ce petit GPS quand ils sont à l'intérieur d'un magasin. Et donc c'est bien de retirer les promotions des têtes de gondole ou des voilà de que ça qu'on arrête de les mettre en avant. Donc déjà moi ça me donne une indication. C'est que le Premier ministre a conscience que la publicité est un des leviers phares de la consommation de ces produits-là. Mais après, bon, ça on le verra si jamais je fais la vidéo sur les mesures, mais il y a quand même d'autres choses où on peut appuyer et ça ferait bien plus mal à l'obésité, en fait. Bien plus de mal à l'obésité. C'est-à-dire que l'obésité étant... Admettons que l'obésité est une entité, il y a des leviers bien plus puissants pour blesser l'obésité, c'est-à-dire la diminuer, quoi, en gros. Donc bon, à voir aussi. Moi, je trouve que c'est intéressant qu'il y ait quelque chose. C'est-à-dire que là, concrètement, ils s'attaquent à des superpuissances, hein, et je trouve qu'il y a une forme de courage là-dedans. Je connais pas l'individu, je fais pas de politique, j'y connais strictement rien en politique, donc je connais pas. Mais par contre, là, ce qui est mis sur la table, c'est quand même quelque chose qui... On n'est pas dans le truc, bon, ben, messieurs, dames, bougez plus et mangez 5 fruits et légumes par jour. Nous, on a cette notion qui est individuelle, c'est-à-dire que c'est une proposition individuelle. Là, c'est tourné dans l'autre sens, c'est-à-dire on va faire un petit peu comme une espèce de censure, on va brider un petit peu l'abus. Et je pense que c'est bien parce qu'il y a eu de la censure sur les abus, des publicités, vous savez, d'avant après sur les réseaux sociaux et tout ça où les gens vendaient des régimes miracles et tout. Donc il y a eu de l'abus dans ce sens-là et donc du coup ça a été bridé et c'est une bonne chose. Et ben ça serait bien aussi que ce soit bridé dans l'autre sens parce que la nourriture et notamment la nourriture junk food, c'est hyper séduisant. C'est-à-dire que il faut pas trop que je m'attarde sur le podcast, mais vous avez déjà vu ces vidéos qui font des millions de vues sur les réseaux sociaux où ce sont des préparations de sandwichs ou des préparations de gâteaux, vous savez, avec le chocolat qui brille et qui coule quand on coupe là. Et souvent, à la dernière image de fin dans ces repas, souvent les repas à base de fromage, les tartes, les sandwichs et tout, la dernière image qu'on vous montre, c'est le plat qui est coupé en deux ou le sandwich coupé en deux et il le sépare et on voit les filaments de fromage entre les deux. Vous voyez ça? Eh ben, c'est hyper sexy à l'œil, pour l'œil humain. Et donc, c'est des vidéos qui génèrent beaucoup de vues. Moi, je pense que là-dessus, c'est pareil. De la publication non monétisée, pourquoi pas? Voilà, chacun partage sa recette, il n'y a aucun problème. Mais dès que ça rentre dans de la publicité pour ce genre de choses, on sait que c'est un levier hyper puissant pour des gens non informés. Faut faire attention. Ça encourage. Donc, si ils se sentent responsables au niveau du gouvernement, s'ils se sentent responsables par rapport à l'alimentation des gens, ils doivent mettre des mesures. Parce que malheureusement, les gens, ils n'ont pas reçu d'éducation. Mais bon, ça, on en parlera si je fais cette fameuse vidéo. Bon, bref, ça vous a pas forcément intéressé. Si vous êtes à fond dans le fitness, tout ça ne vous parle pas. Donc, on va passer rapidement aux questions des auditeurs. Donc, la première question des auditeurs, c'est... salut Théo, que penses-tu de l'entraînement avec deux exercices sur les pectoraux qui travaillent la même partie? Je m'explique. Développé incliné à la barre, suivi du développé incliné aux haltères. 100 temps de repos, juste le temps de changer de banc, une technique pour intensifier l'entraînement, point faible. Donc en fait, ce dont tu me parles là, c'est plus ou moins un biset en fait, tu enchaînes directement du développé incliné à la barre avec du développé incliné aux haltères, sans temps de repos, donc c'est une méthode qui est plus ou moins connue. Après, je ne pense pas que si ton point faible c'est le haut des pectoraux, que tu tires avantage avec deux exercices de base, donc polyarticulaires, comme ça. Si tu as un point faible sur le haut des pectoraux, alors tu parles pas forcément de point faible là, hein, mais bon, si tu le parles, tu dis justement pour intensifier l'entraînement sur un point faible. Un point faible, c'est très compliqué à développer avec des exercices polyarticulaires. Si ce sont des exercices qui fonctionnent pour toi, ce n'est pas réellement que tu avais un point faible, c'est plutôt que tu avais peut-être négligé cette zone musculaire là. Et il y a une grosse différence entre les deux, parce qu'un point faible ne s'entraîne pas pareil qu'un muscle qui a été sous-entraîné. Donc si c'est un réel point faible, un exercice polyarticulaire, donc notamment pour le haut des pectoraux, là tu me donnes deux exercices quasiment similaires qui sont développés inclinés avec haltères ou avec barre, si ton haut de pec est un point faible, tu vas certainement prendre plus dans l'avant d'épaule ou dans les triceps, et donc assez peu sur l'autre pec. Donc tu vas plutôt intensifier le travail sur les zones que t'as pas forcément envie de développer, comme l'avant d'épaule et les triceps, et assez peu sur le haut de pec finalement. Moi, la solution que je te donnerais plutôt, c'est de chercher à localiser au maximum avec des exercices d'isolation le haut des pectoraux. Donc déjà de trouver les exercices qui sollicitent chez toi au mieux le haut des pectoraux. Et comment on fait pour identifier ça? J'en ai parlé largement avec plein de techniques, mais un qui marche bien, c'est quand même la congestion. Parce que si tu arrives à congestionner le haut des pectoraux, tu peux te dire quand même que tu as réussi à solliciter la zone. Fais très attention également à ce que tu pourrais lire à droite à gauche sur il suffit de pousser rien que pour les pecs et ça développe tous les pecs. Ce sont des conneries. Les pectoraux ne se travaillent pas sous tous les angles sous un seul angle pour travailler tous les faisceaux. Il y a plusieurs faisceaux, il y a plusieurs façons de travailler les pectoraux. Il y a également plusieurs couches musculaires au niveau des pectoraux. Il y a également aussi une amplitude, c'est-à-dire que quand tu as les mains fixes, c'est-à-dire que tu fais du développé incliné à la barre, tes mains sont à la même distance, c'est-à-dire la distance entre tes deux mains est la même entre le démarrage et la fin du mouvement, alors que quand t'es aux haltères, le démarrage est plutôt écarté. Enfin, le démarrage, la répétition part d'en bas, admettons, quand t'es fortement étiré, et quand tu finis ta contraction, tes mains sont plutôt rapprochées. Donc du coup, tu as une trajectoire qui va être convergente, et ça n'est pas le même recrutement musculaire, c'est-à-dire que tes fibres vont aller plus loin dans la contraction. Donc tu vois, ça, il faut le prendre en compte. Et quand on a un point faible musculaire, faut essayer de travailler sur l'amplitude, sur la plage de contraction maximale. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un risque de blessure qui va être plus important, puisque si tu augmentes l'amplitude, forcément, il va y avoir un risque de blessure au niveau de la tension d'étirement qui est beaucoup plus important. Donc c'est aussi pour ça qu'il va falloir chercher à travailler sur de l'isolation en poids modéré voire léger pour recruter cette zone. Et à partir du moment où tu auras gagné en sensation, en congestion, que tu arriveras à taper sur cette zone, oui, ça peut être intéressant de travailler sur des mouvements un peu plus polyarticulaires, un peu plus basiques, pour voir s'il y a un transfert de sensation. Mais c'est un travail de long terme, c'est pas un travail de court terme. Ta méthode peut être bonne si ça n'est pas un point faible, mais si c'est un point faible, je te la déconseille. Et je te recommande d'ailleurs d'aller voir sur mon site, sur le haut de pec, je crois que j'ai 3 ou 4 vidéos qui en parlent. Donc tu vas sur www.fitnesssmith.fr, la barre de recherche dans les menus, et tu tapes haut de pectoraux ou haut des pecs, et tu vas trouver tout un tas de vidéos où tu tapes point faible, sinon, et tu vas trouver tout un tas de vidéos. Allez, on continue avec la deuxième question des auditeurs. Alors, la deuxième question, c'est « Bonjour Théo, je suis plutôt sec, abdos visibles, mais étant assez gros à mon adolescence, j'ai toujours une couche de gras entre le dos et les fesses. Penses-tu que c'est du gras ou de la peau et comment y remédier ? Merci. » Bah déjà, si tu as toujours eu, tu m'as parlé d'adolescence en surpoids, si tu as toujours eu cette zone plutôt grasse, etc., c'est que chez toi, c'est un site de stockage favori. C'est-à-dire que ton corps, tu sais, on a tous une répartition des graisses qui est plus ou moins individuelle. C'est-à-dire que grossièrement, les hommes vont plutôt stocker autour de la taille, notamment sur le ventre, et les femmes plutôt sur le bas du corps. Mais il y a toujours des nuances, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont stocker sur le bas du corps et sur le ventre, des hommes qui vont stocker sur les poignées d'amour plus que sur le ventre tout court, d'autres plus sur le bas du dos, d'autres certains un peu en bas du corps, etc. Mais en règle générale, il y a quand même des grandes lignes chez les hommes et les femmes qui on retrouve ça un petit peu chez tout le monde. Toi, ton site de stockage favori, en tout cas, ton corps a décidé que c'était le bas du dos. Et tu m'as dit comment t'as expliqué ça entre le dos et les fesses. Donc ouais, plutôt la région basse des lombaires et haute des fesses, quoi, en gros. Et en fait, cette zone-là, ça veut dire que lors d'un régime, c'est le dernier endroit où tu vas perdre, et lors d'une prise de masse musculaire, c'est le premier endroit où tu vas stocker. Donc là, déjà, il faut faire un petit bilan. Est-ce que durant toute ta pratique de musculation, tu as travaillé cette zone plus fréquemment que le reste ? Beaucoup de personnes négligent ça, en fait. Beaucoup de personnes se plaignent d'une zone où elles stockent du gras, mais statistiquement, ça n'est pas la zone musculaire qu'elles travaillent le plus souvent. Donc déjà, ça, on ne peut pas demander à avoir des super résultats si cette zone-là n'est pas stimulée plus que le reste. Si tes abdominaux sont plutôt un point, voilà, je vais pas dire fort, mais t'as les abdos apparents, etc., je connais pas la fréquence de travail que tu as sur les abdominaux, mais normalement, elle devrait être plus faible, ou en tout cas, le travail du bas du dos, en tout cas de cette jonction que t'appelles le bas du dos fessier, devrait être plus élevé que ton entraînement d'abdos, étant donné que cette zone-là est plus grasse que tes abdominaux. Donc ça pourrait être la première solution, et en même temps, c'est assez fréquent, du moins chez les hommes, que les lombaires et les fessiers ne soient pas fortement sollicités. C'est-à-dire que les hommes, ils vont plutôt se tourner vers un programme bas du corps standard type split bodybuilding. Quand je dis split bodybuilding, ça va être quoi ? Ça va être une presse, ça va être des squats, ça va être un peu de fente à la limite, mais ça, c'est déjà plus rare de voir des hommes faire des fentes. Un peu de leg extension, du leg curl, et puis c'est terminé. Ils vont pas chercher à aller taper dans les fibres musculaires des fessiers, d'essayer de taper dans certaines zones, comme ils pourraient le faire, par exemple, comme dans la première question, essayer de taper sur la partie haute des pectoraux. Ils vont pas essayer de travailler les fessiers différemment, d'essayer de trouver des techniques, pareil pour les lombaires. Donc je pense que le niveau d'attention que tu as sur l'entraînement de ces zones, de ce groupe musculaire, enfin de cette zone musculaire, de cette zone anatomique plutôt, ça serait plutôt de te dire, ok, mon problème est ici, comment je peux au mieux travailler mes fessiers et comment je peux au mieux travailler mes lombaires. Fais attention, pareil au niveau des lombaires, il y a beaucoup de personnes qui vont te dire oh là là c'est pas bien ou machin, il faut faire attention, bas du dos, tout ça. Moi je pense quand même que les lombaires des lombaires bien entraînés, bien stables, bien toniques, c'est quand même une petite protection supplémentaire pour ton dos, hein, tout simplement. Donc, dans les deux sens, hein, ça veut dire qu'une bonne stratégie de récupération avec du stretching, de la décompression de colonne, etc., plus des entraînements de renforcement musculaire, c'est intéressant. Mais pour la perte de graisse, c'est-à-dire de travailler localement une zone pour essayer d'encourager la mobilisation du tissu adipeux, c'est pas forcément avec du super lourd que tu devrais le faire. Et d'ailleurs, les lombaires, je recommande pas de les faire en super lourd. Déjà, une personne qui fait du soulevé de terre va bien stimuler ses lombaires. Enfin bon, bref, toutes les machines, tu sais, les bancs à lombaires, ou alors de faire le Superman au sol, tu sais, l'exercice où tu contractes un peu tes lombaires, ou même tout simplement des exercices comme le leg curl couché, ce sont des exercices qui mobilisent un petit peu le bas du dos, un petit peu les fessiers, cette zone-là. Ça veut pas dire que c'est fait pour, mais on a toujours une petite action. Et donc, ces mouvements-là, tu peux essayer d'avoir la même stratégie que sur des abdominaux en série longue, d'essayer de localiser cette zone, d'essayer de bien la ressentir, et d'essayer de travailler de plus en plus pour aider la mobilisation des graisses à ce niveau-là. Alors, je sais que peut-être certaines personnes me découvrent en podcast et sont en train de se dire, mais attends, il est en train de me dire sérieusement qu'on peut perdre du gras localement. Eh ben oui, je vous le dis, là, si vous passez par ici par hasard, faites attention. Beaucoup de personnes disent que c'est un mythe, la perte de graisse localisée, mais c'est faux. Notamment, déjà, vous voyez qu'on ne stocke pas, je veux dire, de manière uniforme sur le corps, et donc le déstockage n'est pas uniforme également. C'est-à-dire que quand vous stockez du gras, faites une grosse prise de masse, vous allez voir que vous prenez beaucoup plus de graisse au niveau du ventre que sur les mains, sur les avant-bras. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'études pour ça, vous le voyez. Le déstockage se passe plus ou moins de la même façon. C'est-à-dire que quand vous allez perdre, les sites préférentiels vont pas fondre les premiers. C'est-à-dire que les zones les plus récalcitrantes chez vous vont avoir beaucoup plus de mal, que vous allez être hyper sec à des endroits, alors qu'à d'autres, vous allez être encore gras. Donc, il n'y a pas besoin forcément d'études pour ça, mais vous pouvez le constater par vous-même. Mais après, il y a eu des études qui ont été faites. Pour ça, je vous recommande, vous me demandez si vous voulez, je vous enverrai le lien par mail. Enfin, même pas, j'ai même pas besoin de vous l'envoyer. Vous achetez le bouquin de Gundil sur les abdos, et je crois que dans le chapitre sur taux de gras, alors je sais pas si c'est les abdos ou sur la méthode de Lavier 2, enfin un des deux, il y a la référence, il en parle, et c'est pas d'hier, hein, ça date pas d'hier, donc je devrais pas être un des seuls à vous dire ça. On devrait être nombreux à en parler puisque les données sont assez anciennes quand même, hein. C'est pas du récent, du 2020, quoi, hein. Ça date un petit peu. Donc voilà. Pour te répondre simplement, tu peux aider au déstockage. Après, évidemment, il y a une partie diététique, mais si t'as réussi à avoir les abdos, on part du principe quand même que tu sais bien manger, que tu sais faire le nécessaire. Va voir sur mon site les vidéos pour se débarrasser des derniers grammes de graisse, etc. Donc tu vas voir sur le site, tu tapes perte de graisse localisée ou perte de gras local. Enfin, tu tapes les bons mots clés dans le moteur de recherche comme si t'étais sur Google, mais sur mon site, et tu trouveras du contenu qui ira dans le sens de tes attentes. Parce que j'ai déjà écrit pas mal d'articles sur le sujet, j'ai fait beaucoup de vidéos. Faut pas oublier que la perte de graisse, moi, ça a été mon. Enfin, je me suis vraiment spécialisé ces 15 dernières années dans la perte de graisse. Notamment parce que j'étais concerné à mes débuts, mais aussi parce que pour moi c'est une problématique actuelle, et il y a beaucoup de problématiques, on va dire, au niveau de la perte de graisse, que ça soit l'extrême, donc l'obésité morbide, ou tout simplement la sédentarité, enfin bon, toutes ces choses-là. Donc je pense que j'ai fait énormément de contenu, tu trouveras des contenus qui te parlent sur le site, donc va faire un tour www.fitnesssmith.fr et dans la barre de recherche, tu tapes les bons mots-clés. Voilà, j'espère que je vous ai aidé dans cet épisode, que ça vous plaît de m'écouter comme ça chaque semaine. N'hésitez pas à mettre vos questions, parce que les questions, c'est pas dans les commentaires, c'est pas en message privé ni rien, c'est un petit formulaire de questions qui s'appelle poser votre question ici dans les notes de l'émission. Vous voyez dans les notes de l'émission, quand vous glissez là sur la plateforme de podcast, il y a tout un tas de notes, et bien il y a un petit truc avec un doigt qui pointe sur une phrase où il y a marqué poser votre question, et il y a un petit lien anonyme, c'est-à-dire que c'est un formulaire de questions qui ne demande ni votre email, ni votre nom, ni quoi que ce soit. J'ai fait volontairement ça pour que les gens ne soient soit pas timide et puisse me poser des questions dérangeantes, des questions qui pourraient intéresser d'autres personnes et qu'elle n'ose pas poser en public ou sur des forums pour pas être tracée. Moi, j'ai fait un petit formulaire anonyme, comme ça au moins, eh ben, c'est personne et c'est tout le monde à la fois. Et ça vous permet de poser votre question pour que je la traite en podcast, en vidéo ou tout autre format que j'utilise pour vous répondre. Voilà, je m'arrête ici. Très bonne semaine à tous. Profitez bien de la piscine. Ne bronzez pas aux horaires dangereuses. Et d'ailleurs, pour faire le plein de vitamine D avec le soleil, exposez-vous pas en plein soleil comme ça aux horaires dangereuses, mais plutôt un petit peu à partir de 16h, on pourrait dire les choses comme ça, même si c'est une recommandation un peu bateau qui est pas forcément vérifiée. Mais bon, bref. Mais c'est à peu près 15 minutes sur chaque face, un petit peu, vous savez, comme une grosse côte de bœuf de 3 kilos qu'il faudrait faire rôtir 15 minutes de chaque côté. Ben là, pour avoir un statut convenable en vitamine D, il y avait une étude que je lisais l'autre jour en été, c'est à peu près 30 minutes par jour et 15 minutes sur chaque côté. Donc tourne et retourne, et voilà. Donc bon, bref, je m'arrête ici. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour votre fidélité à toutes et à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode. Et pour les plus passionnés, on se retrouve tout de suite dans les notes de l'émission pour la formation sur les TCA. Bye bye.
Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles hein, sur la plateforme que tu préfères, hein, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.